Hey, oh, à vous les Burgiens, votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Qui sont ces touristes de court séjour? C'est le choix des lecteurs de La Voix de l'Ain, notre partenaire. De notre côté, on a rencontré la gérante du domaine de la Dombe, parc d'hébergement insolite et de loisirs. La grève des cheminots se poursuit. Ils protestent contre la réforme de la SNCF voulue par le gouvernement. Dans quelques secondes, on s'arrête à la gare de Bourg-en-Bresse. Témoignages de cheminots sur leur métier, leur quotidien. On fera aussi le point sur quelques idées reçues. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Cyril, je suis contrôleur depuis 16 ans, depuis le mois d'avril.
Émilie, agent circulation en gare de Bourg-en-Bresse. Donc, je suis rentrée à la SNCF en novembre 2000, donc ça fait 18 ans que je suis à la SNCF.
Pascal, donc je suis surveillant des installations électriques de sécurité sur les voies. Je suis rentré apprenti en 1984, donc je n'avais pas 17 ans.
Donc je gère la circulation des trains en 3-8 les week-ends et jours fériés.
Moi je ne suis pas dans le cadre d'horaires décalés, j'ai soit des horaires des journées de jour, soit des horaires de nuit sur des travaux.
Au niveau du contrôle, on n'a pas d'horaire fixe, on peut très bien travailler tôt le matin ou alors en milieu d'après-midi. Ou même à midi, le samedi, les jours fériés.
Bon, je suis à temps partiel, hein, 80%. Donc, je touche 2000 euros net, primes comprises.
Donc, le traitement brut, il est de 2000 euros. Avec les primes, je dois monter à 2300 euros net.
Je suis à 2200 à mon niveau, au niveau du grade, primes comprises, donc en net.
Alors, ma journée type?
C'est la prise de service, de consulter tous les affichages au niveau sécurité qui sont dans les bureaux.
On retrouve tous les collègues. L'encadrement de proximité nous dit s'il y a eu des dérangements dans la nuit, s'il y a eu des incidents au matin qui ont empêché les trains de rouler normalement. Dans ce cas-là, on se jette sur ces problèmes-là.
J'arrive dans mon poste d'aiguillage, donc je relève mon collègue. Donc on se passe les consignes. Ben, je m'installe dans mon bureau, je regarde les circulations à passer. Et donc, à l'arrivée, à l'annonce d'un train, ben, je dois tracer l'itinéraire de ce train.
Ensuite, on récupère donc notre matériel de contrôle. On va à l'escale en gare pour signaler sa présence, pour que le service à bord et le contact entre la gare et le train soient bien faits. On va voir notre conducteur de train.
Si le matin, tout va bien, et ben, on a notre plan de maintenance. Alors nous, on a un plan de maintenance à l'année où on va savoir tout ce qu'il va falloir entretenir dans l'année. Donc après, rien, on va s'adapter un petit peu à la météo, puisqu'on est toujours dehors, nous. Si on voit qu'il pleut, ben, on va plutôt aller entretenir des installations dans les postes d'aiguillage. Et puis si on voit qu'il y a du grand soleil, ben, on va aller entretenir un passage à niveau, un aiguillage ou un signal.
On a ensuite une dizaine de minutes pour faire vérifier à l'intérieur du train si tout se passe bien. On a une dizaine de minutes d'accueil. Ensuite, bah, on fait nos tournées, donc on peut faire un aller-retour Bourg-Lyon, etc., dormir à Lyon. Donc on peut s'absenter également 24 heures, une trentaine d'heures en tout.
Donc voilà, je veille à la sécurité des circulations. Donc quand il y a des incidents, des problèmes au passage à niveau, des problèmes techniques sur la voie, ben, c'est moi qui dois gérer en appliquant une procédure de sécurité. Donc voilà, il y a des mesures à prendre et pour éviter d'impacter trop la régularité des trains.
Notre devise, c'est qu'il faut que les trains y roulent. Donc ce qui me plaît le plus, c'est la satisfaction de passer d'une situation perturbée à une situation de reprise normale où les trains peuvent de nouveau rouler plein pot.
La petite montée d'adrénaline que l'on ressent quand il se passe quelque chose, quoi, et qu'on doit traiter le dérangement ou l'incident, quoi, technique, et puis faire appel aux collègues pour rétablir la situation. Et puis, j'aime aussi le travail en équipe.
Quand tout va bien, c'est le métier idéal, parce qu'on voit du monde, on peut discuter. Et c'est pour ça, moi, que j'avais postulé à la SNCF, c'est qu'on avait le contact avec les clients.
Cet esprit qui existe encore chez nous, de solidarité, d'entraide dans des situations perturbées.
Et le fait de pouvoir bouger. Donc, on n'a aucune routine. C'est ça qui est plaisant dans ce métier, c'est que il faut jamais prendre des habitudes. On n'a jamais d'habitude à prendre.
D'avoir un travail qui bénéficie à tous, c'est vraiment motivant de se dire, si j'entretiens bien mes installations, ça permet au réseau d'être sûr, ça permet au train d'arriver à l'heure, ça permet aux usagers de pouvoir prendre ce transport en toute sérénité. Le plus difficile, c'est le travail de nuit.
Ah, clairement, c'est les 3-8. C'est 20h-4h ou 4h-midi ou midi-20h.
Le travail de nuit, donc, on n'est plus sur de la maintenance préventive, on est sur des travaux d'investissement ou de grosse régénération.
J'ai deux enfants, encore petits, donc quand il faut partir le samedi soir à 20h pour aller faire une nuit 20h-4h, c'est pas évident le week-end. Ouais.
C'est épuisant, puisque en gros, mon métier, c'est qu'en début de nuit, je vais démonter toutes les installations qui vont gêner les machines. Et puis en fin de nuit, il va falloir que je remonte tout et que je teste tout pour qu'elles soient toutes dans les conditions de sécurité exigées pour faire rouler après la circulation commerciale le lendemain.
Il faut voir le train comme une vision de la société à un instant T en fait. On a tous les milieux de la société qui se retrouvent dans un même endroit. Donc certains ont plus de facilité de choses, etc. D'autres, des réactions un peu plus virulentes, surtout au niveau de la fraude en fait. Je dois gérer ces problèmes, éviter que ça parte en conflit. Donc c'est assez délicat, donc il faut savoir maîtriser la situation.
Là, c'est peut-être plus avec l'âge, mais il y a l'astreinte aussi qui est difficile. Des fois, on est bien, bien au chaud dans son lit, il est 2h du matin, il fait moins 10 dehors, et boum, le téléphone sonne, et il faut y aller.
Il faut éviter que ça s'envenime, en fait. Donc du coup, le souci, c'est que certains veulent jouer et perdent, mais n'acceptent pas la règle du jeu, le fait d'avoir un procès verbal ou une amende. Et c'est ça qui est le plus délicat. D'autres sont beaucoup plus virulents, d'autres sont un peu plus compréhensifs. C'est ce qui est le plus délicat dans le travail, en fait. Après, au niveau sécurité, c'est de savoir gérer l'environnement qui nous entoure en cas de gros retard, de savoir tout faire, de tout gérer, donc renseigner les clients, que tout se passe bien au niveau du train. Et c'est ça également le plus délicat.
C'est un petit peu pallié par le fait que très vite, on a envie que la situation normale revienne. Et donc, on est motivé pour réparer au plus vite et surtout dans les conditions de sécurité.
Au niveau des conditions de travail, je le vois depuis 15 ans, ça a énormément évolué.
La dégradation du réseau, en fait, entraîne beaucoup d'opérations de maintenance préventive conditionnelle et on n'a pas le temps de les faire puisqu'on a à la fois la maintenance préventive classique à faire, les dérangements qui augmentent de fait de cette vétusté et les investissements qui ne sont pas là au rendez-vous.
Déjà, on est de plus en plus seul dans le train. Avant, on pouvait être 1, 2 ou 3 contrôleurs. Maintenant, on se retrouve régulièrement tout seul. Ensuite, c'est le manque de matériel. On l'a vu sur Bourg-en-Bresse, au cœur de l'hiver, où on a eu un manque de matériel assez évident. Au lieu de 2 rames, on se retrouve avec 1 rame, avec le même nombre de passagers entassés dans le train. Donc du coup, il suffit qu'il y ait un souci. Le conducteur et moi-même, pénalement, on peut être responsable de ce qui peut se passer.
Ce qui a changé, c'est les formations qui se font de plus en plus rares. Alors ensuite, on a quand même des formateurs de sites. Mais le problème qu'il y a, c'est que avec la baisse des effectifs qu'il y a eu, notre commande du personnel qui nous fait notre planning de travail a du mal à nous dégager pour aller faire ces formations qui sont très importantes pour nous, pour nous maintenir la connaissance des procédures de sécurité.
On a par exemple énormément d'alimentation, que ce soit un feu de passage à niveau ou que ce soit une sonnerie qui est fait avec un fil volant parce qu'il a fallu réparer au plus vite, mais derrière on ne refait pas quelque chose de durable et de surtout de solide pour la régularité des trains derrière.
Radio B.
Depuis le début du mouvement, le 3 avril, beaucoup d'informations circulent sur les cheminots. On pense par exemple à celle autour du statut des cheminots. Ce dernier prévoit pour eux des garanties, un statut dans le viseur de la réforme du gouvernement. Il n'existera plus pour les nouvelles recrues. Retraite à 50 ans, primes, gros salaires et voyages gratuits. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Nos trois cheminots donnent leur avis sur quelques idées reçues. Les cheminots sont à la retraite à 50 ans.
Depuis la dernière réforme des retraites de 2010, les conducteurs partent à 52 ans et demi et les autres cheminots, les autres services partent à 57 ans et demi, mais avec une décote donc sur leur retraite, c'est-à-dire qu'ils ne toucheront pas leur retraite à taux plein. Moi, pour toucher ma retraite à taux plein, il faut que j'aille jusqu'à 62 ans.
Moi, donc, j'ai commencé, j'avais même pas 17 ans, j'étais apprenti. Je peux partir à 57 ans, mais avec cette décote. Et pour annuler la décote, c'est 60 ans et 9 mois.
Pour ma part, je suis rentré il y a 15 ans, donc j'ai 27 ans. Il faudra que je parte au bout de tous mes trimestres accomplis. Ça fera à peu près 65-66 ans.
Les cheminots touchent beaucoup de primes.
Les primes sont nombreuses à SNCF dans tous les services convenus, mais après, elles répondent à chaque fois pour des spécificités ou des contraintes. Moi, je travaille beaucoup de nuit où je prends l'astreinte. Oui, j'ai une indemnité pour prendre l'astreinte. Mais l'astreinte, ça veut dire que je suis 24 heures sur 24 à disposition. Pour être à la dispo comme ça, on va me donner une quinzaine d'euros, par exemple. Il y a une prime qui existe pour les travaux salissants, mais qui est de 1,80€. Et puis après, donc, on a des primes, comme d'autres entreprises privées, comme le 13e mois, mais qui est ridicule, entre guillemets. Moi, je vois des copains qui sont dans le privé. Quand ils ont une prime, c'est 4 000€. Quoi. Nous, on a un 13e mois qui est une grosse prime, mais sinon après, on n'a rien qui dépasse les 400€ en prime. Quoi. Pour, entre guillemets, un service 24 heures sur 24.
Et moi, je voudrais juste rajouter une chose, c'est que les dimanches ne sont pas payés double. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça aussi. Et non, c'est pas payé double, c'est forfaitaire. Hein.
Les cheminots ont de gros salaires.
Les gros salaires, si on prend quelqu'un qui dort jamais dans le lit de sa femme ou de son conjoint, qui parcourt toute la France ou qui dort dans les wagons d'hébergement ou dans des foyers tout seul... On va dire qu'eux, ils ont un salaire un peu plus gros que les autres, mais c'est même pas énorme. 2 000€, c'est mon brut mensuel au bout de 34 ans de carrière. Sans les primes, voilà. Avec les responsabilités énormes, mais elles sont jamais reconnues, elles sont jamais valorisées. Et...
Les cheminots ont beaucoup de vacances.
Nous avons 28 jours de congés payés par an, pas plus.
Donc ça, c'est pareil, c'est des négociations qui avaient lieu, mais c'est un petit peu comme toutes les négociations, que ce soit pour notre caisse de prévoyance et de retraite, que ce soit pour le statut. C'était aussi des négociations qui étaient pour fidéliser des ouvriers à venir travailler dans les chemins de fer. Par exemple, la caisse de retraite, c'est les patrons qui ont créé cette caisse de retraite pour fidéliser, parce que le travail était tellement dur que derrière, les travailleurs ne restaient pas dans l'entreprise.
Les cheminots ne payent jamais leur billet de train.
On a des facilités de circulation. 8 dispenses de réservation TGV par an qui vont nous permettre de prendre le TGV gratuitement. Et puis par contre, je pense par exemple aux lignes Thalys ou aux lignes Eurostar, on paye énormément notre prix du billet. Quoi. Alors qu'avant, c'était des liaisons qui étaient entièrement gratuites. Et ensuite, quand on a utilisé ces dispenses de réservation, on paye après nos réservations aussi. Quoi.
Les grands-parents, les parents, les ascendants, donc, ils ont 4 voyages dans l'année. Ils font 2 allers-retours. Quoi. Les ayants droit, donc les conjoints et les enfants, ils ont 90% de réduction sur tous les voyages. Et si ce sont des trains à réservation obligatoire comme les TGV, ils payent la réservation en plus.
C'est des avantages, j'allais dire, au même titre qu'un boulanger qui ne paye pas son pain. Quoi. Je sais pas, s'il utilise 2 baguettes, c'est 2€ par jour, c'est 60€ par mois. C'est son avantage à lui par rapport à son travail. Nous, notre avantage, c'était juste celui-là, quoi. C'était de pouvoir voyager, pour pas cher, quoi.
Émilie, agent de circulation, Cyril, contrôleur, et Pascal, surveillant des installations électriques de sécurité. Ces cheminots étaient devant la gare de Bourg la semaine dernière pour expliquer aux usagers leur mouvement, pour alerter sur les conditions actuelles. Petite ligne supprimée, moins d'agents sur les quais ou encore moins de contrôleurs. Ils prévoient d'autres actions. Demain, mardi 24 avril, de midi à 14h, ils seront devant l'EHPAD d'Émile Pélican avec les grévistes de cet établissement pour un barbecue.
Radio B. Radio B.
On a vraiment quasiment à 90% de la clientèle nationale française, des personnes du coin, vraiment même des villages voisins, de la région Rhône-Alpes. Et on a aussi beaucoup de clientèle de passage qui profitent d'une descente dans le sud ou de remonter justement peut-être sur les pays européens du nord pour s'arrêter chez nous, pour faire une petite halte.
Restez à l'écoute de Radio B, on retourne au domaine de la Dombes, parc d'hébergement insolite et de loisirs dans quelques minutes. Le groupe Wolf Alice sur Radio Beck, Beautifully Unconventional. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Qui sont ces touristes de court séjour? C'est le choix des lecteurs de notre partenaire La Voix de l'Ain. Nous sommes allés au domaine de la Dombe à Saint-Paul-de-Varax. Il existe depuis 2012. Rencontre avec Camille Raquin, gérante du parc d'hébergement insolite et de loisirs. Les cabanes dans les arbres ou encore les tentes flottantes sont très appréciées pour de courts séjours, comme pendant les ponts du mois de mai.
Les ponts tombent plutôt bien cette année, donc on va dire que pour nous, ils sont quasiment équivalents à des week-ends au niveau taux de remplissage. Donc, on espère avoir le beau temps qui ira avec pour encore améliorer nos réservations.
Alors, si on peut justement regarder ce que ça donne au niveau des réservations pour le mois de mai.
Bah écoutez, on peut peut-être, si on parle en pourcentage, on peut dire qu'on n'est pas loin des 70% de remplissage et puis on espère encore atteindre les 100% d'ici là.
C'est plutôt bien 70% de remplissage là, à quelques jours du début du mois de mai.
Oui, c'est plutôt correct. Chez nous, ça représente à peu près, on va dire, 200 personnes sur le site par jour. Donc oui, c'est plutôt encourageant et honorable.
Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'occupation pendant les ponts du mois de mai?
Oui, c'est sûr que ça a poussé les gens à réserver sur plusieurs nuitées, en fait. Chez nous, on a normalement beaucoup plus de réservations simplement sur une ou deux nuits. Et grâce à ces ponts, on arrive justement à avoir à booker plus des séjours sur trois ou quatre nuits.
Vous faites des promotions pour les vacances de la Toussaint et de, donc les vacances d'été. Il n'y a jamais besoin de faire quelque chose pour le mois de mai?
C'est vraiment une année où les ponts s'enchaînent et tombent bien. Donc c'est vrai que ça nous arrive de faire des promotions. Mais alors à ce moment-là, dernière minute pour booster les derniers petits logements encore disponibles. Mais c'est vrai qu'au vu là, du taux de réservation, non, je ne pense pas qu'on va être obligé de faire ce genre de promotion.
Qui sont vos clients là, qui ont prévu de venir au mois de mai? Est-ce que c'est des gens qui habitent à proximité ou vous avez des gens qui viennent de pays européens?
Alors, on a vraiment quasiment à 90% de la clientèle nationale française, des personnes du coin, vraiment même des villages voisins, de la région Rhône-Alpes. Et on a aussi beaucoup de clientèle de passage qui profitent d'une descente dans le sud ou de remonter justement peut-être sur les pays européens du nord pour s'arrêter chez nous, pour faire une petite halte. On a un petit peu de clientèle suisse, belge, luxembourgeoise et allemande au niveau de notre camping. Et sinon, on a beaucoup de familles, de personnes qui sont attirées par la nature. On a beaucoup de pêcheurs, on a beaucoup de personnes retraitées. On a des citadins aussi qui veulent se couper, on va dire, du stress et du rythme de la vie en ville pour s'évader un petit peu chez nous. On a vraiment une clientèle très, très large.
Qui vient plutôt pour des courts séjours?
Oui, oui, oui. En règle générale, oui, c'est 2, 3, 4 nuits en moyenne pour un séjour chez nous. Au niveau de nos lodges atypiques, parce qu'il y a des petites contraintes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, donc ce n'est pas forcément évident sur une longue période. Et en revanche, sur nos hébergements traditionnels et en camping, là, on a facilement des séjours à la semaine.
Pour les ponts du mois de mai, il y a la concurrence avec des pays européens qui sont à proximité, ou même dans la région, on peut penser à l'Ardèche. Comment convaincre les gens de rester dans l'Ain pour justement faire profiter le tourisme du coin?
C'est vraiment une région nature, une région très belle qui est trop peu méconnue à notre sens. On a vraiment de belles choses chez nous, nos étangs, donc on en a un aussi chez nous avec nos hébergements flottants, la possibilité de faire de la pêche chez nous. On a vraiment le retour de la part de nos clients de la région, comme quoi ils ont l'impression presque d'être dans un autre pays. Ça fonctionne, l'évasion est là, la détente est là, ils arrivent vraiment à être coupés tout en restant proches de chez eux.
Pour ceux qui ne connaissent pas l'Ain, qu'est-ce qui les motive à venir?
Je sais que les clients qui passent la plupart du temps un séjour chez nous en profitent pour explorer toute la région, notamment autour des étangs, des petits villages attrayants à caractère, comme Châtillon-sur-Chalaronne, comme Pérouges. Voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment de belles choses dans notre région à découvrir sur un long séjour ou sur un pont du mois de mai.
Camille Raquin, gérante du domaine de la Dombe, parc d'hébergement insolite et de loisirs à Saint-Paul-de-Varax. Qui sont ces touristes de court séjour? C'est le choix des lecteurs de notre partenaire La Voix de l'Ain. Un dossier à retrouver dans le prochain numéro de l'hebdomadaire en kiosque ce vendredi 27 avril. Vous retrouverez l'interview du directeur d'Intourisme et des témoignages d'adeptes de ces petites escapades.
Radio B.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h, et à tout moment sur notre site radio-b.fr.